Elle.
Elle nous donne rendez-vous chez elle, au cœur du 11e arrondissement de Paris.
Allô ? Oui, Maïwenn, c'est Marion.
Oui, très bien.
Merci.
Dans sa cuisine, où elle vient justement d'installer son bureau pour chasser le spleen du départ des enfants. Tout y est méticuleusement rangé, ordonné, soigné. Au mur, on note un drôle de petit mot avec écrit « Joyeux accouchement Verser ». Sans toi, je ne serais pas là. Je t'aime, ma maman. C'est vrai, ça. Pourquoi on ne remercie jamais les mères ? S'amuse Maïwenn, décidément, jamais là où on l'attend. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois. Ce moment où l'on se sent enfin en adéquation avec soi-même. Un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. Actrice à l'âge de 5 ans, devenue réalisatrice une fois grande, Maïwenn a tout fait à toute allure, brûlant toutes les étapes, sans doute pour échapper au poids d'une famille dysfonctionnelle dont tous les membres habitaient le même immeuble. C'est en devenant mère à son tour qu'elle a enfin trouvé sa raison d'être. Je suis Marion Ruggieri. Bienvenue dans Les Vagues, un podcast de Elle. Maïwenn, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes dans votre cuisine. Est-ce que c'est une pièce où vous vous sentez bien, où vous êtes souvent ?
Je suis tout le temps dans ma cuisine et je m'y sens très bien. Elle a eu ses moments de vie avec les enfants et puis maintenant j'ai réussi à la réintégrer parce que ça a été compliqué de rester dans cette cuisine sans les enfants, parce que les enfants sont partis, vivent leur vie. Et j'ai trouvé un truc pour la réhabiter, c'est que j'ai installé mon bureau dans la cuisine.
C'était trop triste, la cuisine sans les enfants?
Oh oui, oui. Donc du coup, j'ai plus de table où je mange seule comme une âme en peine. J'ai mon bureau dans la cuisine et il y a, je sais pas, c'est vivant. Il y a les photos, il y a ma vie, il y a les albums, il y a les dossiers, il y a toutes mes tiroirs avec mes fournitures là, parce que j'adore la fourniture du bureau, les dossiers de toutes les couleurs et tout. Puis je peux faire aussi plein de choses avec mes mains, parce que je suis assez manuelle. Donc j'ai des dossiers avec plein de papiers, toutes les couleurs, des rubans, des ficelles, des conneries comme ça. Là, il y a le petit coin dessin.
Et puis il y a des photos aussi de Marilyn.
Il y a Marilyn qui lit, parce que j'adore les photos où les gens lisent. Et je voudrais commencer une collection qu'avec des gens qui lisent. Alors j'ai retrouvé ce livre-là. Je vous montrerai après si vous voulez. C'est que des gens qui lisent dans New York.
Amy Winehouse en couverture.
Ouais, enfin, c'est Amy Winehouse qui lit, mais elle lit le menu du restaurant. Mais à l'intérieur, c'est que des gens qui lisent. Non, mais j'adore. J'adore. Les gens sont tellement, ont un visage tellement absorbé par la lecture quand ils lisent que ça fait tout de suite des très belles photos.
Maïwenn, vous êtes kabyle par votre mère,
ouais.
Vietnamienne et bretonne par votre père.
Oui.
De quelle culture êtes-vous la plus proche ?
Oui, puis vous oubliez française aussi. Je suis née en France.
Et
j'ai grandi en France.
Née, donc élevée.
Je me sens proche de la France, enfin je me sens proche, je suis française, je me sens française d'origine algérienne. Mes origines vietnamiennes, je vous avoue que je ne sens pas beaucoup d'atomes crochus. J'ai jamais été au Vietnam, je connais pas l'histoire du Vietnam. J'ai juste en souvenir un grand-père que j'adorais, qui avait des yeux bridés et qui était attaché à sa culture. Mais il est mort, j'étais très jeune donc. C'est quand même, je me sens proche de l'Algérie parce que j'avais un grand-père algérien extraordinaire qui prenait toute la place dans ma famille. C'était le patron. Et il venait tous les jours nous voir, tous les jours remplir le frigo parce que ma mère était prise par Mons et par Vaux. Et aussi, il vivait au premier étage d'un immeuble dans lequel mon père vivait. Parce que quand mes parents se sont séparés, mon père a gardé l'appart dans l'immeuble dans lequel il y avait mes grands-parents au premier, mes arrière-grands-parents au troisième et mes parents au quatrième. Donc, après le divorce, ma mère est partie dans deux rues plus loin et mes grands-parents maternels ont gardé le premier étage. Donc, c'était un peu schizophrénique, c'est-à-dire que le divorce de mes parents a duré plusieurs années. Donc, je m'arrêtais au premier faire un coucou à mes grands-parents maternels qui étaient du côté de ma mère. Et puis, hop, j'allais voir mon père au quatrième où c'était la guerre. Il y avait deux clans, quoi, mais les deux clans étaient dans le même immeuble. C'était particulier. Mais bon, mes grands-parents ont joué un rôle vraiment, comment dirais-je, c'était mes piliers, quoi. J'étais extrêmement bien avec eux, chez eux. Je me sentais aimée, regardée. J'aimais tout faire avec eux. Et c'était gai parce que j'avais des frères et sœurs, j'étais l'aînée, et donc j'étais un peu comme à la fois la reine, la leaduse, celle qui incitait à faire des bêtises, mais des bêtises un peu pas graves, quoi. Qui incitait à mettre la bonne humeur. C'était un peu moi qui donnais le souffle de l'ambiance dans la maison, qui faisait des challenges, qui faisait des petites mises en scène. Et on rigolait beaucoup.
Mais donc, c'est vous qui étiez en charge de vos frères et sœurs.
Ah oui, oui, complètement.
Et pendant ce temps-là, vos parents...
Alors, c'est quand ma mère vivait seule, elle avait déjà divorcé. Ma mère était dehors, soit elle travaillait, soit elle s'amusait. Je sais pas, elle faisait du mieux qu'elle pouvait, sûrement. C'était beaucoup plus gai chez ma mère, parce qu'on était sans elle, seule. Il y avait une ambiance sans elle qui était assez géniale. Et puis, c'est vrai que dès qu'elle était là, c'était un peu particulier. Je faisais moins la maline quand ma mère était là. Je perdais mon rôle de leaduse une fois que ma mère était là. Et chez mon père, je n'avais pas du tout le rôle de leaduse. J'étais l'esclave.
À lire votre biographie, tout va très vite. Mmh. À 5 ans, vous jouez Isabelle Adjani enfant dans L'été meurtrier. Quel souvenir vous gardez de ce tournage? Est-ce que c'était une expérience agréable?
Tous les tournages étaient des souvenirs agréables parce que je sortais de chez moi. Je sortais de Belleville, je voyais des gens différents, des adultes. Et puis, je me souviens très bien que j'étais fascinée par l'investissement des gens sur le plateau. J'avais l'impression que ces gens-là pouvaient mourir pour leur métier. Et aussi pour autre chose, c'est que tout me paraissait gratuit. Ça, j'étais très impressionnée. On me donnait des vêtements, je pouvais repartir avec. On allait à la table régie. Enfin, tout était gratuit. Et pour moi, qui étais dans une famille vraiment plutôt pauvre, où chaque sou était compté, là, j'avais l'impression que c'était une autre planète. Les gens me ramenaient en voiture, venaient me chercher. Enfin, on payait pas. Enfin, c'était incroyable. Et après, quand j'ai réalisé que j'étais payée pour le faire... C'était
la cerise sur le gâteau.
Ouais, là, c'est ça. Merci.
Ça a été une évidence d'emblée, ce métier, ou juste une expérience à l'époque?
Alors, ni l'une ni l'autre, parce que comme j'ai commencé à travailler avec des grosses guillemets quand j'étais enfant et que j'ai continué, j'ai eu l'impression que c'était une activité extrascolaire qui m'était imposée et pour laquelle on ne me posait pas la question. Mais j'étais contente de le faire en étant enfant. Mais en grandissant, en ayant 13, 14, 15 ans, j'ai commencé à me poser des questions. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je suis pas obligée de le faire? Je voyais des enfants et des parents qui poussaient et des enfants qui voulaient faire ce métier. Et moi, j'ai eu la sensation, en l'analysant avec un psy plus tard, que personne ne m'avait posé la question et que je le faisais par automatisme. Et c'est la première chose que j'ai arrêtée quand j'ai eu ma fille à 17 ans. C'est que je me suis dit déjà, pour savoir un peu qui je suis, je vais déjà arrêter de faire cette activité pour savoir quelle est ma nature. C'est quoi ma nature? Je ne sais pas comment je suis devant un appareil photo, devant une caméra. Je ne me connaissais pas, en fait.
À 12 ans, vous allez, vous parliez de l'adolescence, vous allez au bain-douche, qui est à l'époque...
C'est c'est ma mère qui m'y emmène, hein. C'est pas moi qui me réveille à 12 ans et qui me dit « tiens, je vais aller au bain-douche ». Moi, quand elle m'a dit « bain-douche », déjà j'ai cru que c'était pour me laver, je savais pas que c'était une boîte de nuit. Puis quand elle m'a dit « non, c'est une boîte de nuit », je n'ai pas compris le mot « boîte de nuit », je disais « mais c'est quoi, une boîte, la nuit ?» Je comprenais pas. Mais à 12 ans, déjà j'étais nulle à l'école, mais en plus j'avais un vrai retard intellectuel par rapport aux autres. C'est-à-dire que j'étais mature sur le côté débrouillarde, je m'occupais de mes frères et sœurs, je savais faire à manger, tout ça. Mais sur le niveau scolaire et sur les sentiments, j'étais complètement en retard. Donc oui, je vais... Donc ma mère m'emmène en boîte de nuit à 12 ans, en pensant que je ne vais pas aimer, que je vais vouloir rentrer, mais j'adore ça.
Qu'est-ce qui se passe là-bas pour que vous adoriez ça ?
Les gens sont beaux. Les gens sont gentils, les gens ne me snobent pas à cause de mon jeune âge. Je parle avec des gens de tout âge, des jeunes, des vieux. Ils sont marrants, je rigolais beaucoup. J'ai comparé l'ambiance dans la boîte de nuit avec ma vie, forcément, puisque je connaissais que ça. Et moi, au collège, j'avais aucun succès, ni dans mes résultats scolaires, ni avec les copines, ni avec les garçons, parce que je commençais à m'intéresser aux garçons. Et donc, tout d'un coup, au bain-douche, Tout ça n'existe pas. On me trouve drôle, gentille, jolie. Mes résultats scolaires n'ont aucune influence sur ce que j'ai à dire ou quoi ou qu'est-ce. Donc tout d'un coup, c'est un milieu qui est fait pour moi. Je me sens valorisée, je me sens regardée. Les gens commencent à m'appeler chez moi. Est-ce que Maïwan est là ? Il y a une fête et tout. Mais moi, j'avais que envie d'être avec eux.
Alors à 16 ans, vous rencontrez le réalisateur Luc Besson que vous épousez.
Et il me rencontre aussi.
Absolument. À 16 ans, le réalisateur Luc Besson vous rencontre.
On se rencontre.
Vous vous rencontrez, vous vous mariez et vous devenez parent d'une petite fille dans la foulée. Comment vous vivez cette période ?
J'étais immensément heureuse. Je rencontre cet homme, nous nous rencontrons. Et c'était pas une évidence, hein, parce que faut remettre les choses dans le contexte. J'ai quand même 15 ans. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui me sort de ma vie, mais plus que ça, qui me fait rire, qui me fait voir le monde de façon intelligible, avec beaucoup d'espoir. Et je sens que j'ai de la valeur à ses yeux. Je sens que je ne suis pas que une inculte, qu'une jolie fille, parce que ma mère avait tendance à me rabâcher toute la journée que j'étais jolie, mais que je ne pourrais que me servir de ça. Alors que mon père ne me disait rien. Ni t'es jolie, ni t'es intelligente, ni rien, aucune conversation. Et cet homme, je sais pas, très vite j'ai été fascinée par lui et je voulais voir le monde que à travers lui.
Et devenir mère ?
Et devenir mère, je voulais, oui, évidemment, pour précipiter les choses, c'est-à-dire avoir ma propre famille. Je me souviens que j'étais obsédée à l'idée d'avoir ma propre famille. Donc, je me suis sauvée, parce que je pense que c'est vraiment ça. Je me suis sauvée de chez ma mère à 15 ans. Et j'ai voulu faire ma vie à moi tout de suite aussi pour... probablement montrer la maternité telle que moi je la voyais. J'avais tout de suite envie de mettre à exécution ce que je pensais de ce que c'est que mettre un enfant au monde, d'aimer son enfant, de lui donner toutes les cartes en main pour qu'il s'épanouisse. En vrai, je n'avais que ce but-là dans ma vie, devenir mère. Je ne me voyais ni actrice, ni réalisatrice. Tout ce que je fais aujourd'hui, ce n'était pas dans ma tête.
Et est-ce qu'à l'époque, vous vous sentez à votre place, justement ? Est-ce qu'à 17 ans,
alors,
jeune maman, mariée avec Luc Besson ?
Oui, je me sentais à ma place. Mais évidemment, ce que je sentais à l'époque, maintenant, j'ai 47 ans, j'ai plus du tout le même regard que je porte sur moi à l'époque. Je sais qu'à l'époque, j'étais dans un état où je voulais à tout prix me sortir de ce contexte familial très anxiogène. Mais maintenant, je me dis, mais non, mais c'était pas ma place. J'aurais dû persévérer dans les études, j'aurais dû faire ma fille un peu plus tard. Donc je pense que ça aurait été plus digeste pour elle. Et puis pour Luc aussi, pour moi, enfin pour tout le monde. Mais je me souviens qu'à l'époque, ce n'était pas concevable d'attendre, mais même 6 mois, 1 an de plus, j'étais obsédée par avoir ma fille, mon enfant.
Avec le temps, justement, avec le recul, aujourd'hui, est-ce que vous vous souvenez du jour où vous vous êtes sentie à votre place pour la première fois ?
Bah, on va dire que oui, la première fois que je me suis sentie à ma place, c'est quand j'ai eu mon enfant.
Votre fille, donc ?
Oui, mon premier enfant, oui.
Est-ce que vous vous souvenez précisément du jour où vous avez eu votre fille ?
Le jour... Oui. C'était un 2 janvier. J'avais beaucoup trop mangé le 31 décembre. J'avais mangé une galette entière, une galette des rois entière, une galette de 6. Après, le saumon et les blinis et tout ça. Donc, autant vous dire que j'étais pleine. Et puis, pendant la nuit, ça n'allait pas. Je sentais que ça avait déclenché les contractions. Et puis, on a appelé l'hôpital. Ils nous ont dit, oh là là, si ce n'est pas des contractions régulières, ce n'est pas la peine de venir. Et puis, on a arrivé à la clinique et ils nous ont dit, c'est pour dans quelques heures. Et quelques heures après, ma petite crevette, elle est née. Et puis, c'était le bonheur, quoi. C'est invraisemblable. C'était une évidence, j'étais sa mère.
Et puis, pour être tout à fait juste, il faut ajouter que l'autre jour où vous vous êtes sentie, j'imagine, aussi terriblement à votre place, c'est le jour de la naissance de votre fils.
Oui, bien sûr. Oui, après, comme il s'est passé 10 ans, et qu'entre-temps, j'avais goûté à la mise en scène, j'avais un métier... C'était différent, la perception est différente. Mais comme ma fille, je ne me voyais que là-dedans et je connaissais un petit être qui était dépendant de moi et pour lequel j'étais si importante pour lui, elle était si importante pour moi, c'était magique pour moi. Je n'avais pas connu cette relation-là avec mes parents. Puis même la façon dont mes parents éduquaient mes frères et sœurs, je ne voyais pas d'amour. Ou alors j'en voyais, mais de façon alambiquée, un peu violente, un peu bizarre. Et moi, quand j'ai eu ma fille, je me souviens que je lui disais tout le temps que je l'aimais, que je l'aimais, que je l'aimais. Ça, c'était un débit de parole comme ça, plein d'amour. Et j'ai eu l'impression de me venger sur mon enfance.
Après ça, le temps passe, vous écrivez et vous jouez un premier spectacle, Pois Chiche.
Le Pois Chiche, oui.
Seul en scène. Puis vous réalisez un premier film, Pardonnez-moi. Ça vous a apporté quoi ? Ça a changé quoi ?
Je crois que ça a changé ma perception de mon avenir. C'est-à-dire que quand Luc m'a quittée, j'ai eu l'impression que la vie n'avait plus beaucoup de sens, puisque je n'avais que l'objectif de fonder une famille et de mettre les petits plats dans les grands, hein, en vrai. Hein, j'avais pas du tout de vocation, ni artistique, ni quoi. Puis de toute façon, je savais rien faire. Donc je me disais, à part être mère, mais ça m'allait très très bien. Hein. Mais tout d'un coup, voilà, je fais ce spectacle un peu parce que je sais pas trop quoi faire de mes journées. Et puis, quand j'imitais les gens, je voyais bien que les gens se marraient. J'ai été poussée par mon entourage par faire ce spectacle. Mais ce n'est pas venu de moi. Et puis après, il y a des producteurs qui sont venus voir le spectacle, qui m'ont dit, on aimerait en faire un court-métrage. J'ai dit, ah bon, d'accord, ouais, pourquoi pas, c'est marrant. Essayons, c'est une expérience. Je l'ai fait, ça m'a pas trop plu. J'ai pas aimé, j'ai eu l'impression qu'on me donnait des ordres, qu'on me disait non, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Donc j'ai eu l'impression de remplir un cahier des charges, de faire comme les autres. Et quand je voyais le résultat, je me disais mais non, en fait, je trouve que les acteurs récitent leurs textes, que c'est tout, c'est figé. Je ne me suis pas sentie à ma place en réalisant mon court-métrage. Mais après, il y a Claude Lelouch qui est venu me chercher pour jouer dans son film et je l'ai beaucoup observé. Et là, je me suis dit ok, la mise en scène doit ressembler à la personne qui l'a fait. Et donc, je me suis mis à écrire mon film en imaginant le réaliser tel que je voulais le voir, l'entendre. Et c'est ce que j'ai fait. J'avais mon assurance vie qui arrivait à terme. Je pouvais l'ouvrir, prendre les sous qu'il y avait, que j'avais gagné grâce au spectacle, je tiens à le dire. J'ai pas gagné au loto. J'ai tout mis sur un compte et je me suis servi de ce compte-là pour produire mon film. Et sur le plateau, j'étais très, 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 très heureuse. Puis après, j'ai monté, j'ai trouvé une monteuse qui m'a suivie, qui a cru au projet, alors que j'avais pas de production. Et puis là, quand j'ai monté les scènes et que j'ai vu que ça ressemblait à ce que j'avais en tête, là, je me suis dit, ah ouais, non, mais là, j'ai trouvé un métier que j'adore. Mais c'est aussi bien que d'aimer son enfant ou de l'élever. Je me suis dit, je vais avoir des journées pleines parce que les journées étaient rythmées au rythme de ma fille, rentrée d'école, sortie d'école, goûter, ce que j'adorais. J'étais jamais ennuyée de la routine avec mon enfant. Mais là, tout d'un coup, l'idée d'avoir des journées à créer, à écrire, à monter, je me suis dit, waouh, la vie, ça peut être différent et tout aussi bien.
Et où est-ce que vous avez trouvé cette énergie, cette confiance ?
Je ne l'ai pas trouvée, il se trouve que je n'avais rien à perdre. Je me suis dit, j'essaye. J'ai tellement observé le Louche travailler, puis je me suis souvenue de Luc. Je me suis dit, mais il doit y avoir... Je sentais qu'il y avait un endroit qui était pour moi, qui était ni totalement comme Claude Lelouch, ni totalement comme Luc Besson. Et je suis devenue réalisatrice, mais sans même connaître le cinéma. C'est-à-dire qu'après, quand on a commencé à comparer mon premier film avec Piala, j'étais gênée parce que je connaissais même pas Piala. Donc en fait, je me suis intéressée au cinéma parce que j'avais fait un film.
6 films en tant que réalisatrice plus tard, des récompenses, des longs métrages qui s'exportent dans le monde entier. Est-ce que vous avez le sentiment que le malentendu qui accompagnait peut-être vos tout débuts dans ce métier ont été levés?
Non, ce qui était difficile, c'était entre 20 et 30 ans.
Oui.
C'est-à-dire que j'ai passé 10 ans à me chercher. C'est-à-dire que mon premier film, je devais avoir 30 ans. Je venais de passer 10 ans à me chercher, à écrire ce spectacle, à réussir à le jouer dans une salle, que ça devienne plein, des salles pleines, etc. Ces 10 ans, je ne les ai pas du tout oubliés. Je me souviens très bien des gens qui ont été condescendants. Ou des gens qui m'appelaient soit pour avoir le numéro de ma sœur, soit pour avoir le numéro de Luc, qui manquaient vraiment de délicatesse. Oui, je m'en souviens très bien de ces 10 années-là. Mais à leur décharge, je n'avais rien fait qui puisse demander en même temps un grand respect. Je suis pas dans la rancune de ça. Tout sert. Je pense qu'il faut savoir se servir de tout. Oui. Rien n'arrive par hasard. J'aime bien être optimiste, en fait. Ça rend la vie et l'existence beaucoup plus joyeuse quand on se dit que tous les échecs nous ont servi quelque part. Plutôt que d'être dans le regret et tout.
Votre place aujourd'hui, vous diriez, elle est où? Elle est derrière la caméra? Elle est devant? Elle est ailleurs? Vous vous voyez où dans 10 ans?
Dans 10 ans, je ne me vois plus du tout faire des films. Je me vois grand-mère. J'ai très hâte d'être grand-mère. Je me vois lire beaucoup. C'est ce que j'aime le plus faire aujourd'hui. Faire des gâteaux pour mes petits-enfants. Faire des cabanes.
La cuisine bureau redeviendra une cuisine.
Ah oui, on la transformera en cabane. En salle de jeu peut-être.
Est-ce que l'on se sent jamais légitime ou est-ce qu'on se sent transfuge à vie, vous diriez?
Alors déjà, je ne sais pas, je ne pourrais pas prétendre que mon parcours démontre tous les autres, mais en ce qui me concerne, c'est vrai que le succès m'a aidée à un moment donné à gagner en confiance en moi, mais un film, dès que je démarre un film, j'ai l'impression que les compteurs reviennent à zéro à chaque fois. Que tout ce qui s'est passé avant était de l'ordre du miracle et que des fois je me dis mais ils vont voir que je suis nulle, que j'ai arrêté l'école si jeune, que les moments où je me sens le plus transfuge c'est les moments où je me mets à écrire. Il y a toujours un moment donné où je me dis oh la vache, t'es en train d'écrire quand même. Moi qui avais des résultats scolaires tellement nuls, que ce soit sur la grammaire, les fautes d'orthographe. En fait, il y a un vrai décalage quand on ressent des choses et qu'on les met sur papier. Ça n'arrive jamais sur le papier tel qu'on les imagine quand on n'a pas la connaissance du français. C'est compliqué à y amener toutes les subtilités, les nuances, tout ça. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'écrire, ce n'est pas évident. Et donc, quand j'écris, c'est assez dur pour moi parce qu'il y a ce duel dans ma tête où, OK, j'ai fait des films qui ont marché et tout, on ne me prendra plus de haut sur les choses que j'écris. Mais il n'empêche qu'à l'intérieur de moi, c'est toujours compliqué d'écrire parce que je n'ai pas les bagages, je n'ai pas la logique, je n'ai pas la facilité. Il y a des gens, ils écrivent en quelques lignes quelque chose de très subtil, où avec la tournure des phrases, on peut y ressentir plein de nuances, et c'est assez magique, un texte qui est bien écrit. C'est pour ça que les écrivains, c'est pour moi mes plus grandes idoles maintenant. Mais donc voilà, quand je me mets à écrire, je me dis, mince, je suis quand même encore une transfuge. C'est toujours compliqué pour moi d'écrire. C'est pour ça que quand on m'invite dans des universités ou des écoles de cinéma, ou même rien que quand il y a des jeunes qui viennent me voir après les projections et qui me demandent de lire leur scénario ou de regarder leur court-métrage, tout ça, j'essaie toujours de faire attention à ces gens-là parce que j'estime que c'est un métier qui ne demande vraiment aucune étude. La seule chose que ça demande, c'est l'écoute. Et de regarder le monde qui nous entoure, enfin, et d'avoir une langue pour retranscrire tel qu'on le voit.
Maïwenn, merci infiniment.
C'était super. Merci.
Je suis Marion Ruggieri. Vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Média. La musique est signée Michael Lio. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous.